One, two, ten, check. It's okay. That's it, man.
Wait.
That's it, man.
Ah, Provoscopie, l'émission politique de divergence. Aux commandes, le loup qui a toujours une voix complètement pourrie. Et le renard, avec un invité.
Avec une voix claire, le renard.
Candidat à la candidature. C'est la mode par les temps qui courent, le candidat à la candidature. En fait, il s'agit ce soir de pratiquer la réponse du berger à la bergère. Notre compagnon de jeu n'est autre que Patrick Vignal, le challenger de Philippe Sorel au fauteuil de maire en la bonne ville de Montpellier. Lui, Patrick Vignal, avait souhaité un débat, une rencontre divergente, une confrontation, mais le premier consul a décliné l'offre. Dommage pour le débat politique. Toujours est-il qu'après avoir reçu, en ce qui nous concerne, le grand architecte de la ville, nous pinaillerons ce soir avec l'homme de la démocratie au cœur du Clapas. Quoi qu'il en soit, sous le regard visiblement amusé de Georges Frêche, le combat socialiste bat son plein dans un désordre divergent qui pourrait même, pourquoi pas, contribuer à l'émergence d'idées politiques pour une nouvelle façon de gouverner la cité. D'autant qu'un gamin s'apprêterait à entrer dans la danse, parrainé par un aîné, les deux adoubés par le grand. Je veux parler de Michaël Delafosse et Jean-Louis Gély. On ne manquera pas de les inviter, ceux-là aussi. Les seuls qui semblent rester hors jeu aujourd'hui sont la belle Hélène, que la ville n'aime plus, et André Vézinet, qui n'aime plus la ville, si on en croit Philippe Sorel. Ce soir, que du off, rien que pour vous, car à divergence, dans l'entre des belettes, on a tranché au diable la langue de bois et le off, son expression journalistique. On vous dira tout ce qu'on sait, rien de moins, rien de plus. Enfin bref, de quoi passer un bon moment citoyen, vous en conviendrez. Et maintenant, place aux palabres, mais avant, une petite jingle.
Divergente et divergent, vous êtes bien calé dans mon fauteuil, quelques glaçons dans vos verres respectifs. Bon, vous le savez, à Provoscopie, rien ne peut de faire sans l'Uchronie du loup. Ce soir, il sera question de démocratie populaire en réponse à une république populiste. Un savant mélange des mots, M-O-T-S, qui alimentera certainement les mots M-A-U-X, socialiste. Qu'en est-il de loup?
Divergente, c'est divergent. Rien ne va plus dans l'écusson. Quoique, la semaine dernière, je glosais autour de concepts de nation et de peuple, montrant que la première, la nation, avait malheureusement pris le pas sur le second, le peuple. Et donc que la République, incarnée par l'État, avait supplanté la démocratie. Ah, la belle affaire! Et le pauvre peuple de devoir se contenter, de temps en temps, d'aller déposer citoyennement un bulletin dans l'urne, croyant ainsi déléguer un pouvoir dont il n'avait plus que les reliefs, depuis déjà fort longtemps. La semaine dernière, notre grand architecte, premier consul de la ville, s'il vous plaît, nous a conté sa vision missionnaire, tenant plus du sacré que du terrestre, plus de l'arcane que du gratine. La République doit l'emporter, selon lui, sur la démocratie. Au sens littéral des mots, bien sûr. Mais qu'en est-il réellement de la démocratie? De ce soi-disant pouvoir que serait censé détenir le peuple? Et qui le lui redonnerait? Remettre le pouvoir, le crataïne matériel concret, au peuple, pourrait vite s'apparenter, ça c'est déjà vu, à de la démocratie populaire. Jouer de façon printanière à ce petit jeu pourrait aussi ressembler à du populisme, un ersatz de démocratie. Et nos politiques, nos élus, sont malgré tout des experts dans ce domaine. Et de nous faire prendre de la démagogie pour de la démocratie. C'est au terme de cette réflexion que les services démocratiques de la ville de Montpellier viennent de proposer une véritable révolution dans la conduite des affaires de la cité. Le peuple, autrement dit tous les Montpelliérains, auront dorénavant voix au chapitre, concrètement, par le biais notamment d'Internet, sur un site créé à cet effet par la mairie. Tous les projets de la ville seront en ligne, soumis au débat populaire. En vertu d'un quorum qui reste à définir, les citoyens pourront voter au quotidien pour ou contre les 10 projets. Les élus de la ville d'entériner la chose. Ah, que voilà de la Respublica démocratique, de la belle ouvrage populaire, une vraie politique de gauche, plus qu'une réforme, sire, une révolution. Bien sûr, encore une fois, tout cela n'est qu'une uchronie, mais comme d'habitude, si tout n'est pas entièrement vrai, rien n'est tout à fait complètement faux. Merci, et maintenant place au débat. Mais avant, une petite musique que nous vous proposons, Fatal Picard. Ça va être schizophrène et schizophrène. Je crois que ça ira bien pour notre débat à venir.
Oh ouais, c'est super, je collectionne les pierres. Oh ouais, c'est super, je les ai presque toutes. Oh ouais, c'est super, il m'en manque qu'une. Oh ouais, c'est super, c'est la grise. Cachée dans les poubelles, les gens parlent pas beaucoup. Mais des fois je sors, mais les gens parlent pas beaucoup. Les gens disent que je suis malade, qu'on devrait m'enfermer. Mais moi j'aime bien les gens, et j'aime bien m'enfermer. Je me prends dans mes bras, je me parle tout bas. Je vois la vie névrose, je vois la vie névrose. Je me prends dans mes bras, je me parle tout bas. Je vois la vie névrose. Je vois la vie névrose. Oh ouais, c'est super, je collectionne mes cheveux. Oh ouais, c'est super, je les ai presque tous. Oh ouais, c'est super, il m'en manque que un. Oh ouais, c'est super, c'est un gris. L'autre jour pendant la nuit, j'ai fait la cuisine. J'ai préparé mon plat favori, c'était du glaçon. Mes copains, ils étaient pas venus, mais bon, c'est tant mieux. Mes copains, c'est des allume-gaz, alors ils auraient fait peur au glaçon. Je me prends dans mes bras, je me parle tout bas. Je vois la vie névrose, je vois la vie névrose. Je me prends dans mes bras, je me parle tout bas. Je vois la vie névrose, je vois la vie névrose. Oh ouais, c'est super, je collectionne les matières. Oh ouais, c'est super, je les ai presque toutes. Oh ouais, c'est super, il m'en manque qu'une. Oh ouais, c'est super, c'est la grise. Des fois je me balade, mais après j'arrête. Je me suis assez baladé, alors après je fais rien. Alors je joue à courir après mon ombre. Et je cours très vite pour pas que je me rattrape. La voix elle me dit schizophrène, 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 schizophrène. Tu vas trop vite, schizophrène, schizophrène. Tu vas trop vite, schizophrène, schizophrène. Tu vas dans le mur, dans mes bras, des petits chats, je leur parle tout bas. Je vois la vie névrose, je vois la vie névrose. Dans mes bras, des petits chats, je leur parle tout bas. Je vois la vie névrose, je vois la vie névrose. Comme un psychopathe, je mange, je mange des pâtes. Comme un déséquilibré, je mange déséquilibré. Mais j'ai plus d'amis, parce que j'ai mangé mon pote au feu.
Passons s'il vous plaît maintenant aux choses sérieuses, à la compagnie de Patrick Vignal. Bonsoir.
Bonsoir.
L'homme qui dans le combat préfère nettement l'esquive à l'attaque. Un brin chinois. Surtout fréchien de l'être, même s'il est devenu volontiers renard au contact des Libanais et des Niçois. Ensemble, ce soir, nous allons diverger sans langue de bois, une première, pas une dernière. Nous allons revenir sur les risques identifiés de démagogie populiste dans le concept de démocratie de proximité, un joli jouet qui ne demande qu'à être perverti. Puis, comme avec Philippe Sorel, nous déambulerons de concert dans les coursive de l'hôtel de ville au temps d'Hélène Mandroux. Enfin, last but not least, nous pénétrerons dans l'âme de celui qui devient le renard de la fable municipale en cherchant à savoir s'il est plutôt romantique ou romanesque. Et place au débat pour le bonheur de la démocratie, espérons-le.
Alors, Patrick Vignal, bien le bonsoir.
Bonsoir.
Donc, on va d'abord discuter un petit peu, revenir sur la petite chronique de tout à l'heure, sur les histoires de république, de démocratie, de nation, de peuple, d'éduquer la foule pour qu'elle devienne le peuple. Et revenons au mot tout d'abord. La nation. La nation, elle a engendré l'État. L'État que nous appelons en France, tel que c'est la République. Si bien que nos élus, ceux de la nation, ils le sont avant d'être ceux du peuple. C'est dans ce contexte que l'État a pris le pas sur les citoyens, en pervertissant la démocratie et le pouvoir du peuple, au profit de la République. Philippe Sorel nous a, si ce n'est convaincu la semaine dernière, que la République, il trouvait ça tout à fait extraordinaire, même au détriment de la démocratie. Cette dernière a même perdu, au cours des décennies, son sens premier, la chose publique, la République. Si bien que le terme même de politique a été galvaudé, s'il signifiait au départ le gouvernement des affaires publiques, eh bien aujourd'hui, il est devenu la mainmise de l'État sur les citoyens, jusque dans leur vie privée. Le public a mangé le privé. Alors comment remédier à la chose ? Alors, Patrick Vignal, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette notion de démocratie, d'autant que tu es adjoint à la démocratie de proximité, c'est quand même c'est ton job. Alors, quelle définition tu vas donner pour chacun de ces mots ? Nation et peuple, qu'est-ce que c'est la même chose ? Quelle différence tu fais entre les deux ?
Mais moi, je crois que le débat est intéressant. D'abord, le peuple, qu'est-ce que le peuple ? Je crois qu'aujourd'hui, on a donné, et les gens se sont battus pour avoir le pouvoir de voter, mais quelle capacité de pouvoir et de partage les élus doivent restituer au peuple. Je voudrais quand même préciser que c'est quand même le peuple qui est élu, qui nous élit, trop régulièrement d'ailleurs, parce que je trouve qu'il y a tellement d'élections qu'on n'a pas le temps de travailler. Mais je crois que la nation doit être partagée. Aujourd'hui, le mot nation, et on le voit régulièrement, est-ce que le mot nation, c'est parce qu'on est né sur la terre ? Est-ce que appartenir à une nation, c'est appartenir à un drapeau ? Est-ce que la nation, c'est nos anciens qui se sont battus pour avoir cette idée de nation, qui se sont battus sur leur terre, qui se sont battus aussi pour pouvoir voter ? Donc moi, j'ai plus tendance à vous dire que je crois vraiment à la démocratie. J'en suis convaincu. Et je le dirai très gentiment aux électeurs.
Avant qu'on arrive à la démocratie proprement dit, au niveau du peuple, entre le peuple et la nation, c'est lequel qui l'emporte dans les deux ?
D'abord, il y a un désamour.
D'abord, quelle est la différence entre les deux, Patrick Vignal ?
Je n'ai pas de différence, moi. Puisque moi,
Est-ce que, par exemple, la nation, ce n'est pas une partie du peuple qui a décidé de vivre ensemble ?
Est-ce que la nation, c'est une partie du peuple qui a décidé de vivre ensemble ? Non, je crois qu'au départ, l'idée de nation, c'est d'abord la vie sur le territoire. Je crois qu'aujourd'hui...
La nation, c'est une vie sur le territoire.
Oui, c'est une vie sur le territoire, mais on peut avoir des gens qui...
Ça, c'est plutôt un peuple qui vit. Parce que sur un territoire donné, il y a même plusieurs nations qui vivent.
Mais c'était la définition de la nation avant la révolution.
Il peut y avoir diverses nationalités, qui viennent et qui deviennent donc nation, donc français. Donc moi, j'ai pas de souci avec... Moi, je préfère le peuple. C'est-à-dire que la République, pour moi, c'est l'égalité, c'est la laïcité, c'est
la République,
ce respect-là.
Elle est issue du peuple.
Elle est issue du peuple, pour moi. Elle n'est pas... Je veux dire, il faut arrêter...
L'idée de nation n'a rien à voir avec la... L'idée de nation, elle vient s'insérer alors qu'elle n'a pas le loisir d'être.
Bah attendez, avec la mondialisation aujourd'hui, avec l'idée d'aujourd'hui d'être citoyenne du monde, bien sûr qu'on doit être fier de sa terre, de ses ancêtres, de ses traditions. Je suis tout à fait d'accord, mais aujourd'hui, la réflexion qu'on a, c'est comment on vit ensemble, comment les peuples se rapprochent. Donc moi, je crois plus à l'idée du peuple qui fait une nation qu'à une nation qui fait un peuple.
Et entre République et démocratie ?
Là aujourd'hui, c'est la. Mais
est-ce que l'État, la République, doit commander au peuple, ou est-ce que le peuple, la démocratie, doit commander à l'État, c'est-à-dire à la République ?
Mais en fait, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une alchimie des deux, parce que la démocratie a ses limites, vous le savez très bien. On pourra en parler limites du choix. À un moment donné, les votations, c'est bien. Regardez la place Jaume. Il y a des votations qui, à un moment donné, ne peuvent pas se faire. Et puis, des fois, l'élu, il faut qu'il ait raison avant le peuple. Quand on fait un programme, c'est pas toujours pour écouter ce que disent les gens. C'est très complexe. Donc, il faut qu'il y ait à la fois une expertise, ce que j'appelle, moi, expertise d'usage du citoyen. Mais le choix décisionnel, c'est l'élu qui a été élu par ce peuple.
Oui, mais déjà, alors, quand un élu prétend avoir raison avant le peuple...
Ben écoutez, je vous donne un exemple. La piétonnisation, en 2004, Georges Frêche et Hélène Mandron ont raison avant les autres. Parce que s'ils avaient écouté les gens, aujourd'hui, on ne serait pas piétonniers.
Ce qui veut dire qu'en fin de compte, par exemple, si je prends Georges Frêche, que je considère, ça c'est l'opinion personnelle, plus comme un élu de la nation qu'un élu du peuple, à partir de ce moment-là, s'il avait écouté le peuple, peut-être qu'effectivement, toutes les réalisations qui ont été faite dans cette ville n'aurait pas eu lieu d'être.
Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Georges Frêche est un élu du peuple.
Le quorum n'existerait pas.
Mais bien sûr. Mais attendez. Il faut pas confondre tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est élu, c'est avec un projet, un programme qui va s'adapter. Mais ce programme et ce projet, il doit être constamment amendé avec l'évolution des gens. Donc aujourd'hui, je crois... Vous savez, quand on dit que Georges Frêche n'écoutait pas les gens, il avait des relais dans tous les quartiers. Donc, je veux dire, la ville, comme elle est faite, j'y suis né, moi. Hein. Je suis né, je n'ai connu que Georges Frêche quasiment comme maire, parce que j'avais 20 ans, 77. C'est à la fois avoir cette capacité d'avoir le projet et de le partager avec les gens, de l'amender, mais de temps en temps, peut-être qu'il faut, et sûrement, avoir raison avant les autres, le quorum, le tram, tout ce qui était fait à Montpellier. Sinon, à ce moment-là, c'est pas une... Alors, on vote pour tout. Et quand on vote pour tout, on n'avance pas. Gouverner, c'est choisir. Mais c'est aussi partager. Donc, moi, je suis plutôt sur une ligne où on a un projet.
Mendès-France.
Oui. Moi, je suis sur une ligne...
Quatrième voie publique.
Je vais vous dire, on n'a jamais la science infuse. Il faut arrêter, là. Les élus, souvent, ils ont des égos qui gonflent et ils ont l'impression qu'ils ont... Mais bien sûr qu'on a des projets. Cette ville a toujours été une ville de projets. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un va-et-vient, une alternance entre la philosophie du projet et comment elle est perçue par les gens.
C'est-à-dire que le peuple, ouais, il négocie pas. Il est consulté. Voilà.
Attendez, on peut y arriver. Rappelez-vous Porto Alegre où les gens votaient leur budget participatif. Mais on y sera. On y sera dans 20 ans, dans 30 ans. Un jour, dans 30 ans, on aura des fonds d'habitants et les habitants eux-mêmes géreront leurs fonds. Pourquoi pas? Moi, je dis qu'à Montpellier, il y a eu 30 ans d'intelligence. Cette ville, elle n'est pas finie. Je n'ai jamais dit qu'elle était finie, d'ailleurs, au passage. Mais quel est le positionnement d'une ville comme Montpellier, 8e de France, au regard de son agglomération, au regard de son département, au regard de sa région? Je crois qu'on a eu un bâtisseur, Georges Frêche, Raymond Dugrand. Il y a eu de l'intelligence avec les élus. Mais aujourd'hui, ils ont donné un écrin, un joyau. Et comme l'écrin et le joyau est déjà bien, bien consolidé, nous pouvons mettre un peu plus d'humain encore et justement encore plus de démocratie participative parce que je crois qu'on est prêt, de cette ville. Mais la démocratie participative, c'est une révolution culturelle d'abord dans l'administration qui est aujourd'hui...
On va y revenir, ça, sur la démocratie participative. Mais revenons sur le terme de politique, faire de la politique. Alors faire de la politique, c'est quoi? C'est agir pour les citoyens, y compris malgré eux, ou accompagner les citoyens dans la gestion de la cité?
Je ne suis pas d'accord avec aucune des deux définitions. C'est agir, pas pour les citoyens, mais c'est agir avec les citoyens. Et c'est fondamentalement différent. Entre dire,
C'est qui le patron? C'est qui le patron?
Le patron, c'est les élus. Vous avez élu des élus, ce sont les patrons pendant 6 ans. Je trouve génial.
Ce n'est pas les citoyens.
Mais non.
Si je prends l'exemple...
La différence, mais attendez, c'est important ça. Vous avez élu une équipe pendant 6 ans. Bon, cette équipe, elle est capable d'avoir un très bon bilan.
Non, mais les gens, ils ont élu une équipe parce qu'ils n'ont pas le choix.
Bien sûr qu'ils ont le choix. À Montpellier, il y avait combien de listes en 2008?
Ils ont le choix entre une équipe ou une autre équipe ou une autre équipe.
Ils ont eu le choix combien de listes en 2008?
Ils n'ont pas le choix entre déléguer leur pouvoir ou l'exercer par eux-mêmes.
Ah si! C'est la gouvernance d'Hélène Mandroux. C'est-à-dire que comme moi, je pars sur le postulat suivant où Georges Frêche avec Dugrand nous ont fait un écrin où c'est équipé, même suréquipé, ou le tram, et on en parlera après de peut-être la projection, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir encore plus le temps de concerter avec les gens. Mais en 2008, ils ont élu Mandroux et son équipe pour justement appliquer un programme. Parce qu'on est jugé aussi sur un programme et un bilan. Qu'est-ce qu'on a fait au bout de 6 ans? Si au bout de 6 ans, on n'est pas bon...
Hélène Mandroux a été élu, effectivement, sur la base... de faire une gestion avec davantage d'oreilles, on va dire les choses.
Oui, tout à fait.
Est-ce que je me trompe ou pas?
Non, pas du tout.
C'est un petit peu...
Si vous voulez...
le travail. Et c'est dans ce cadre-là qu'en fin de compte, bon, tu as le job que tu as aujourd'hui.
Ben oui, moi j'ai une délégation extraordinaire, mais très, très sensible. Action territoriale, démocratie participative, contrat de cohésion sociale. La délégation que m'a filée Madame le maire, c'est vraiment de mettre encore plus de liens. C'est très fragile, la démocratie participative. C'est très fragile, ça tient à pas grand-chose. Mais c'est un vrai process. C'est une révolution culturelle sur 3 piliers. L'administration, qui doit faire sa révolution et ne plus décider dans une tour d'ivoire, ne pas être sur le terrain. L'élu, qui doit partager le pouvoir. Et d'ailleurs, est-ce qu'un élu a le pouvoir?
Avec qui?
Avec le citoyen. obligatoirement, et le citoyen qui doit arrêter d'aboyer et de penser que parce qu'il représente tant de voix, il peut avoir raison sur tout. Donc, l'idée qui est extraordinaire, et c'est pour ça que je fais de la politique, moi, c'est que tous les jours, c'est de remettre en cause, pas les fondamentaux, mais la prise de décision. C'est-à-dire aujourd'hui de se dire, est-ce que je fais bien ? Et je crois qu'un élu doit douter. Et pour qu'il doute le moins possible, il a son expertise technique, l'administration, il a son expertise d'usage, le citoyen. Et là, il pourra trancher. Mais si l'élu ne tranche pas, c'est la lali, ça ne marche pas. Donc on a besoin de chefs, on a besoin de gens qui commandent, on a besoin de gens qui tranchent et qui dirigent. Mais je crois qu'on peut aller à Montpellier parce que cette ville a eu beaucoup d'intelligence pendant des années, entre les hauts fonctionnaires qui sont restés, la continuité du projet de Georges Frêche. Cette ville peut se permettre d'aller plus loin dans la démarche, qui est la troisième, l'expertise d'usage, mais en construisant des process démocratie. C'est 10 ans pour qu'on puisse avoir une démocratie, qu'on n'ait pas des gens qui aboient et qu'on puisse draguer, je pèse mes mots, la majorité silencieuse qui a envie de dire des choses.
Et entre vie privée et vie publique, de plus en plus, mais ça c'est pas le fait de Montpellier, c'est le fait de toutes les démocraties occidentales et particulièrement françaises. La vie publique mange la vie privée. Le droit s'insère dans la vie du citoyen au quotidien. Quelle frontière entre les deux ? On le voit à Montpellier, c'est depuis quand ? Depuis lundi ou mardi ? Dans les Cussons, les gens qui ont une moto n'ont plus le droit de circuler en moto, se prennent des 135 euros de PV, y compris quand ils habitent dans les Cussons. C'est une atteinte à la liberté individuelle, à la liberté privée, que d'empêcher des gens de rouler en moto. Alors, le mec qui roule à 150 à l'heure dans les Cussons, je comprends qu'il prenne un PV. Mais alors, soi-disant qu'il y a un arrêté municipal qui date de 1995, ce qui autoriserait la police municipale à faire je ne sais quoi. C'est du foutage de gueule. Donc, c'est de l'emprise de la vie publique sur la vie privée. C'est de l'empêcher de tourner en rond. C'est de l'empêcher de vivre. Jusqu'où la démocratie municipale va aller pour empêcher les citoyens de vivre ?
Attendez, là, il y a plein de questions, mais effectivement, quelle est la barrière entre la vie privée et la vie publique ? Quelle est la barrière ?
Il y en a qu'une. Quand est-ce que vous arrêtez de nous casser les couilles ?
Eh ben voilà, un mec qui parle français normal et bien. Eh ben, je vous donne une réponse parce que ça va bien. J'ai la chance aussi.
Là, je pense qu'il faut que tu dises d'abord que le monde se divise en deux. Ceux qui sont assis sur une selle et les autres. Bon, je crois que le loup, lui, est assis sur une selle.
Ah, alors...
Non, ça, c'est pour t'aider.
Ouais. Non, mais là... Moi, je...
Parce que moi, je ne partage pas tout à fait la même opinion.
Patrick Gosset.
Que le loup ? Non, mais alors, si on est... Alors, après, il y a la réflexion, effectivement, la vie privée, la vie publique, jusqu'où on peut aller chez les gens. Mais bon, s'il n'y a pas de règles, ça ne marche pas. On le sait très bien, nos sociétés. Société sans règles ne marche pas.
Oui, mais trop d'impôts. Alors, trop d'impôts, tu l'impôts. Trop de lois, tu la loi.
Mais bien sûr, mais aujourd'hui, Sarkozy nous fait des lois tous les jours. Mais moi, je voudrais dire quand même aux gens...
Et la belle Hélène aussi.
Mais non, elle ne fait pas des lois,
Ce n'est pas des lois, c'est des arrêtés municipaux.
C'est depuis 1995, l'arrêté
des arrêtés.
Et si j'étais vilain, mais je ne suis pas vilain. Soi-disant que cet article est fait à la suite d'un journaliste qui a pris 2-3 PV et son scooter au centre-ville et s'est fait plaisir de faire un article. Je ferme les guillemets. Moi, je vous dis par contre, ça me va bien parce que l'interrogation va bien. J'ai la chance d'avoir la gestion avec Hervé Martin, vice-président à l'Aglo, de la gestion des deux roues. On s'est peut-être trompé. La première des choses avant de verbaliser, c'est la prévention. Moi, je suis désolé, j'ai beau être de gauche, je pense qu'il faut qu'on ait des règles. Et aujourd'hui, la société, elle se délite dans tous les sens, il n'y a plus de règles. Il y a des lois de plus en plus, le temps qu'on applique une loi, comme l'électeur, à un moment donné, n'a qu'une envie, ses effets d'annonce, on lui dit on va recréer une nouvelle loi, alors que la première n'est même pas mise en action. Pour les deux roues au centre-ville... C'est une réflexion globale. 400 000 voitures rentrent à Montpellier aujourd'hui.
C'est un exemple. Bon. C'est un exemple,
mais c'est un exemple intéressant.
Non, mais ce que tu dis là, c'est très juste. Hein. C'est qu'en fin de compte, quelque part, on privilégie la répression à la prévention, à l'éducation. Oui. Et au moment où on débat, où le Parlement européen débat sur la fessée, par rapport à l'éducation des enfants, c'est exactement ce qui se passe. Parce qu'en fin de compte, c'est une fessée pour les deux roues, alors qu'au contraire, alors qu'on demande d'expliquer aux enfants, on pourrait expliquer aussi aux jeunes, qu'effectivement, ce n'est pas très judicieux de rouler...
La ville aujourd'hui, la ville, c'est la folie en ce moment, des travaux partout. Je voudrais quand même le dire aux électeurs. quelle chance le Montpellierain il a. 500 millions d'euros, 500 millions d'euros donnés pour le tram, la ligne 4. 80 000 voyageurs, 5 quartiers traversés. Donc on sait que pendant 2 ans, c'est la guerre. C'est la guerre à Montpellier, c'est les travaux, c'est dur. Moi, le premier, j'ai une entreprise où le tram passe pas loin et que les gens ont du mal à venir. Mais quel bonheur demain. Quel bonheur quand on aura des trottoirs élargis. Quel bonheur quand on aura le partage de la rue avec le vélo, le skater, la maman en poussette, le handicapé et le cycliste et le deux roues motorisées. Moi, je suis un deux roues motorisé. Je suis venu donc chez vous en passant par l'Écusson. Je roue d'abord doucement.
Tu as un frein à la loi ?
Oui, je roule doucement, effectivement.
Mais
je
me dis que
oui, j'ai un frein à la loi. Ah. Ça s'appelle le fonctionnaliste. J'estime qu'aujourd'hui, et je suis en train de travailler, on a un projet sur ça, sur la capacité de repousser la voiture au centre-ville. Le deux roues électrique de demain permettra d'avoir moins de stress, pouvoir se déplacer facilement et pouvoir venir directement au lieu qui nous intéresse. Sauf qu'aujourd'hui, et on y travaille à la ville, Hélène Mandrou m'a confié cette mission aussi, de faire des parcs. Donc quand on sera capable de faire des parcs identifiés, où on pourra poser des casiers, on posera le casque, le surcasque, les gants, avec un accord avec les commerçants de la CCI, on va encourager un trafic intelligent, on va faire attention à ces jeunes avec leurs boosters qui n'ont pas de peau, qui eux font des nuisances.
Dénoncera aussi les concessions avec les parkings.
Ah, c'est pas les parkings, attendez, je vous signale que la Comédie, il y a un parking de roues, messieurs. Il faut que vous vous me posez la question des deux roues. Bon, les parkings, c'est autre chose. Mais en tout cas, une politique de deux roues doit être efficace si on a des parcs identifiés. Après, on peut dire à un mec, voilà, il y a 5 parcs dans cette zone-là. S'il stationne son véhicule hors du parc, là, on peut mettre un PV. Alors là, je pense qu'il y a eu, une sorte d'humeur, ce n'est pas important. L'important, justement, c'est que par rapport à cet article, de réagir, quelle stratégie on met en œuvre pour que le deux roues au centre-ville puisse y circuler et stationner. C'est cela qui est intéressant. Et là, justement, vous le verrez, je crois que c'est début juin, on a un débat avec les motards. Parce que vous devriez inviter dans votre émission les motards en colère. On a fait un plateau repas avec Hervé Martin et on va avoir un débat. Je suis allé à Paris. Je suis allé à Barcelone, voir comment ça marche les parkings. On est en train de réfléchir à une stratégie du deux roues motorisé au centre-ville. Ça, c'est une réponse intéressante
pour faire payer pour faire payer le deux roues au niveau des parkings.
Mais non, cher ami, puisque ce sont des parkings. Une place de voiture, c'est 4 places de parking deux roues. Donc, ils seront accessibles gratuitement. Et de plus, comme on n'est pas trop con à Montpellier.
Pourquoi gratuitement ?
Parce que les
deux
roues.
Ils ont que deux roues à la place de 4.
Voilà, ils ont deux roues à la place de 4. Parce que moi, je roule en deux roues et que je suis un élu qui a envie d'avoir. Et en plus, comme on est très malin à Montpellier...
Il faudrait diviser par deux. Là,
et comme on est Montpellier, la technopole, est intelligent, on les mettra près des caméras, comme ça, en plus, ça sera sécurisé pour les usagers. Ah, voilà une bonne politique.
Bon, que voilà, que c'est bien. Alors justement, revenons à la démocratie, à la démocratie de proximité. Cette espèce de royalisme qu'on pourrait appeler un désir d'avenir. Alors, jusqu'où le peuple peut-il se gouverner ? Parce que la démocratie de proximité, c'est sympa, c'est un beau mot, c'est joli... C'est de la démagogie.
Mais non, c'est pas de la démagogie.
Alors, jusqu'où le peuple peut-il
se gouverner ? Écoute, si tu venais avec moi...
Démocratie, démos, kratos, le pouvoir du peuple. Alors, de proximité, c'est le pouvoir du peuple qui se contrôle lui-même, qui se gouverne lui-même.
D'abord, enfin, tu ne fais pas que tu oublies quand même que ce sont ces gens qui votent pour nous quand même.
Mais non, mais ça, c'est parce qu'on les oblige. Enfin,
On les oblige pas à venir. Mais malheureusement, d'ailleurs, il y a 50% d'abstention, ce qui est très dommageable.
Parce qu'ils ne peuvent pas voter pour eux.
Mais ils ont qu'à se présenter.
Ah oui, non, mais ils se seraient votés pour quelqu'un plus.
Pourquoi le peuple ne pourrait pas se gouverner par lui-même ?
Pourquoi se gouverner par lui-même ?
Mais qu'est-ce qu'il fait en ce moment, le peuple ? Madame le maire a mis en œuvre le plan local de déplacement urbain. On est à 900, écoutez bien les amis, on est à 900 personnes sur 8 réunions thématiques. 900. C'est la première fois.
Et sur 250 000 habitants, c'est zéro.
Non mais attends, bien sûr, je me suis présenté dans mon canton, un canton de 26 000 habitants. Ils m'ont élu 8864 voix. J'ai été élu. Et Tortorici, qui était d'ailleurs un partenaire, non pas un concurrent intéressant, a fait 2250 voix. Quand j'ai été élu, je me suis payé le luxe de faire dans toutes les boîtes aux lettres une lettre de remerciement. Et en disant à ceux qui n'avaient pas voté ni pour moi, et si abstention, oui, je leur ai mis à vos souris et j'attends par mail que vous m'aidiez à bâtir une politique.
Même pas vrai.
J'ai eu 50 seulement mails.
Même pas vrai.
J'ai été déçu par les gens.
Même pas vrai.
Ah, mais quand tu veux, je t'en donnerai mon tract que j'ai écrit dans les boîtes aux lettres.
Même pas vrai.
Pourquoi même pas vrai ?
J'habite 31 rue des Aiguerelles dans ton canton.
Eh bien, tu as dû recevoir le lendemain de 2008, cher ami.
Non,
alors, tu dois avoir, alors tu dois être, tu sais ce que tu dois avoir, tu dois avoir des digicodes là avec la poste ou même pas rentrer chez toi. La
moto doit
être accessible.
Il est fâché avec le facteur.
Oui, c'est pour ça. Le facteur n'a pas dû te livrer à toi.
J'ai
il
le
a dit c'est un nanar,
normal.
Il n'aimera pas Vignal. Alors, dans ce canton-là, si tu veux, et j'étais déçu, d'ailleurs, dans ma lettre, je le dis. Et les mails, j'en ai eu 50 ou 80. Ça veut dire que.
Moi, je m'attendais,
que les
je,
gens
m'attendais
aussi...
que, je m'attendais à ce que tu sonnes à ma porte un soir.
Ah, 25 000 boîtes aux lettres. Je vais t'amener les croissants le matin, mais t'es pas mon type de mec.
En tant que candidat et tout.
Non, plus sérieusement, le souci, en fait, c'est le même refrain. C'est-à-dire que les mecs, ils vous disent ah, il y a les élections, 6 mois avant, ils viennent. C'est pas faux, ça. Parce que, quand même, moi, je veux bien qu'on parle démocratie. Mais dans la démocratie, il y a la capacité de partage, mais il y a aussi le rêve. Si on disait la vérité tout le temps aux gens, on est dans la merde. La Grèce est en la Grèce est en train de déposer le bilan. L'Espagne aussi. La France a 8% de PIB. On est mal. Quand tu fais ça pour un programme et que tu dis aux gens les 30 ans à venir, vous allez vous serrer la ceinture pour vos enfants. Est-ce que tu es élu avec ça?
T'as 2 ans d'avance. T'as 2 ans d'avance. Dans 2 ans, tu vas nous promettre le bonheur. C'est ce que Martine Aubry a promis
oui,
déjà hier.
Le bonheur et l'humanité.
Bon, non, ça...
Je pense que sur une ville...
Non, restons sérieux.
On peut faire sur une ville des tas de choses.
Alors, restons sérieux. Pourquoi le peuple ne pourrait pas se gouverner lui-même?
Parce que ça ne marcherait pas.
Pourquoi? Il est trop con.
Mais non. Mais quand dans une salle de réunion, il y a plus de 4 personnes, ne t'arrives pas à sortir une quintessence
alors,
sur un projet.
Non,
c'est simple.
Alors, est-ce qu'il faudrait...
Pourquoi l'élu? Il est très disponible... En campagne électorale, et même y compris, il fait des efforts surhumains. Quand il fait du porte-à-porte, quand il fait les marchés, quand il dort plus jour et nuit, etc. Et pourquoi, au lendemain des élections,
il est plus
pour pouvoir le rencontrer, discuter avec lui, il faut prendre le rendez-vous.
Oh, mais là, vous êtes des gros vilains tous les deux.
Trois semaines
vous
à l'avance.
Vous croyez que Georges Frêche a été élu 5 mandats en venant juste 6 mois avant être bonimenteur?
Non,
vous croyez qu'Hélène Mandroux a été élue là, sans recevoir les gens?
Attends, on
va vous croyez que nous, avec les potes, là, tous, on reçoit tous les jours? Moi, c'est lundi, mercredi, vendredi, et tout Montpellier à mon portable. J'ai même dû, je l'avoue, le changer le nouveau, mais comme je me disais en rentrant chez moi que j'avais l'impression de faillir au peuple, et j'ai mis une messagerie sur l'ancien numéro pour dire mon nouveau. Donc en fait, je voulais changer pour avoir un peu de liberté le dimanche soir entre 19 et 20. Et si vous allez sur mon ancien numéro, je vous donne le nouveau.
Alors, en fait, donc, il faut téléphoner l'élu entre 19 et 20 le dimanche soir.
C'était le seul soir où j'étais un peu tranquille avec ma famille.
Ça, c'est le message.
Quand on est élu, c'est comme les infirmières, c'est comme les instits, c'est comme des professions, comme les journaleux aussi, on a très envie de servir les gens. Alors après, quand même... d'en servir les gens.
Et non pas de se servir.
Un petit peu, ne serait-ce que médiatiquement. On est fiers quand on ouvre le journal, on va se tronche le matin en disant « Tiens, je suis en photo ». On est fiers quand dans la rue, un mec vous dit « Ah, je vous remercie pour cette action-là ». Ou on me dit, ou on vous dit « Je crois en vous ».
Non, mais ça, c'est
mais
servir.
Ça, c'est l'écume des choses.
Ça, c'est servir.
C'est l'écume, ça. C'est l'écume.
Alors, justement, pour conclure sur cette première partie, ce premier petit bout de débat, je me demande parfois si tu ne confonds pas le peuple avec ce qu'on appelle le people. J'ai vu ça dans Midi Libre. où tu avais un visage radieux lors du mariage de Damien Nougared, c'est-à-dire le conseiller artistique de Vincent McDoon, et où tu avais l'air mais de prendre ton pied, de marier vraiment dans le people, ça avait l'air ton bonheur absolu, et on avait l'impression... Et ça, c'est Midi Libre, la photo où Jean-Michel Marthe est un très bon photographe. On avait l'impression là, d'un adjoint au maire, mais qui prenait son panard. Putain, je me suis battu pour être élu, mais enfin, j'ai ça.
Alors, je vais te raconter l'histoire.
Est-ce que tu n'as pas pris ton pied fabuleux?
Je vais te dire, moi, la politique, c'est très sérieux, mais de temps en temps, un petit écran, une petite...
Ça, on ne l'a pas ici, l'écran, on l'a pas.
Ah ouais, je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est bon. Alors, je vous fais l'histoire. Il y a un photographe professionnel qui rentre, qui me dit, écoutez, monsieur, vous mariez donc de jeunes mariés, et il y a un people, et il me dit, Vincent McDoom. Je vais le dire, je ne savais même pas qui c'était. Vincent McDoom, donc moi je m'attendais à voir déjà un homme, donc je ne sais pas qui c'était. Alors je dis, mais c'est qui? Il m'a dit, mais vous le connaîtrez, vous verrez. Bon, il est rentré donc des jeunes super sympas. Mais un peu détonnant, le mariage d'avant, ça avait été très symbolique, beaucoup de monde, des sourires, mais sans plus.
C'est quoi ? C'est la ferme célébrité.
Ah voilà, c'est le gars de la ferme de célébrité.
C'est ça ?
Donc c'est un garçon, enfin, je crois, enfin, je ne sais pas, mais c'est pas un souci, avec une jolie robe rouge, et qui me dit, monsieur le maire, puisque je suis marié, il me dit, je voudrais prendre une photo avec vous. Et je lui dis, écoutez, on va faire le mariage. Et pendant le mariage, j'ai vu des gens ouverts, tolérants, sympas. Donc à la fin du mariage, il m'a dit, allez, je vais faire une photo avec vous. Et j'ai dit, écoutez, on va faire mieux. Maintenant qu'on a fini le mariage, je vais vous décerner la médaille du magistrat de la ville. On a fait une photo avec la médaille autour du cou. Ça lui a fait plaisir, moi aussi. Les mariés étaient contents. Ça ne m'a pas posé aucun problème. Ce n'était pas du people. Je vous signale d'ailleurs qu'il n'y avait pas de photographe de presse. Mais j'aurais dû savoir, mais maintenant je saurais, comme Damien, le gars de la com, botte de com, le lendemain, envoyait ça à Midi Libre. Ça ne me pose aucun problème. C'était un petit clin d'œil. Ce jour-là, j'ai fait 17 mariages. 16 personnes qui venaient se marier, qui avaient très envie. Peut-être un mariage qui m'a semblé un peu douteux. Et je me suis même dit, est-ce qu'ils se marient ou est-ce qu'ils veulent avoir des papiers ? Par contre, j'ai marié 16 personnes, des mariages de couleurs, et c'est extraordinaire de marier. Est-ce que vous vous rendez compte, quand vous avez le pouvoir, de marier des gens ? Je trouve que c'est fabuleux. Ça fait partie. Il y a ça, il y a la strength qui est partie de notre extraordinaire.
Redis-nous la phrase. Quand vous avez le
pouvoir de marier.
Oh, bien,
oui. Et ça, j'aime ça. Quand tu maries des gens, tu as le pouvoir de dire au nom de la loi, je vous unis par le mariage. Et je trouve que c'est extraordinaire d'être élu pour faire des mariages. Et quand j'étais conseiller municipal, j'ai demandé deux fois des dérogations parce que j'ai encore des frissons quand je marie des gens. Je trouve que c'est extraordinaire.
Fin du premier débat, la première discussion, un petit morceau de musique qui n'a rien à voir. Le premier qui dirait que ça a à voir, alors vraiment, c'est quelqu'un qui a mauvaise mentalité. Un morceau de Louise Attaque qui s'appelle « L'imposture ».
De l'imposture, on a ceux qui parlent de ce qu'ils font, ça c'est dur. Avec ceux qui sont nés pour faire ça, c'est sûr, c'est cela qui nous mène la vie dure. Dans le même style de l'imposteur, on a ceux qui pensent avoir du cœur, une tête, une âme de voyageur. Et trop de mélange, ça, c'est des couleurs. Chantera souvent, faites à toute heure charlatan. Je pense tout ça être à l'image de vous, de notre grand cinéma. Mourir d'amour, je veux dire, oh, c'était pas pour vous fuir. Juste un mot pour vous dire, c'était pas pour vous. Mourir d'amour, je veux dire, oh, c'était pas pour vous fuir. Juste un mot pour vous dire, c'était pas pour. On a ceux qui parlent de ce qu'ils font, ça c'est dur. Avec ceux qui sont nés pour faire ça, c'est sûr, c'est cela qui nous mène la vie dure. Dans le même style de l'imposteur, on a ceux qui pensent avoir du cœur, une tête, une âme de voyageur. Et trop de mélange, ça, c'est les couleurs. Et moi, grand chanteur à tout vent, en fait à toute heure, charlatan. Je pense tout ça, être à l'image de vous, de notre grand cinéma.
Deuxième débat sur Divergence 93.9. Et là, avec Patrick Vignal, j'aimerais qu'on parle de la vie quotidienne à la mairie de Montpellier au temps de Hélène Mandroux. Carrément, au jour le jour. Bon, ça fait quelques années que tu gravites.
10 ans.
Voilà, une dizaine d'années dans les arcanes du pouvoir municipal. Et donc, tu as connu l'époque fraîche, où Frêche était, Georges Frêche était le maire de Montpellier, et où maintenant, c'est Hélène Mandroux. À l'époque de Frêche, ça se passait comment? Et je veux dire, au quotidien, avec monsieur le maire, par exemple, une différence que j'ai notée énorme, à l'époque, on arrivait à la mairie, on prenait l'ascenseur, on appuyait sur le bouton 6, on était au 6e étage, c'est-à-dire à l'étage de monsieur le maire, et à peine y avait-il une secrétaire qui n'était pas toujours là, et toc, 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 on tapait au bureau de Georges Frêche et on tombait sur Georges Frêche. Ah, maintenant, il faut un badge. On ne monte pas dans l'ascenseur n'importe comment. On ne peut pas aller à n'importe quel étage. Au-delà du, je ne sais plus si c'est le 3e étage, je crois que c'est le 3e, pour aller au 4e, il faut un badge spécial, pour aller au 5e, un autre badge, pour aller au 6e, un badge spécial. Madame le maire est totalement inaccessible.
Vous êtes des vilains parce que je ne partage pas du tout votre analyse, mais je reviens à la première question. D'abord, le badge...
À l'époque de Frêcheur.
D'abord, c'est devenu général, le badge. Regardez, tout le monde est sécurisé, toutes les résidences, les digicodes sont partout maintenant. Moi, j'avouerai d'ailleurs que j'ai un badge pour l'agglo, j'ai un badge pour le conseil général, j'ai un badge pour la mairie. C'est vrai que moi, ça me fatigue, ces badges. Bon, après, c'est la société, ça évolue. Bah, être maire d'une ville, on a de temps en temps des gens qui viennent pour manifester, donc ça ne me dérange pas, le badge. Bon. Quelle est la différence du management de Frêche et de Mandroux? Deux personnalités différentes, deux vécus différents.
Le quotidien
de Georges Frêche.
De boire un café avec l'un.
Mais c'était pareil, ça. Moi, vous savez, j'ai eu la chance avec Georges Frêche, je suis rentré donc en 2001. Je suis resté 8 mois conseiller municipal. Et je vous raconte une petite histoire, tiens. Le jour de mon investiture, Michel Guibal est venu me dire « Tu n'es pas adjoint, mais le maire a dit, donc Georges Frêche, que ton heure viendra un jour. » Pendant la campagne, en 2001, Frêche m'avait dit « Je te mettrai adjoint au sport ». Diverses raisons, le monde sportif, mes copains élus ont dit « Il est trop jeune, chef d'entreprise, il est assez communicant, il fait des cours à la fac sur management de communication, c'est pas un vrai socialiste ». Enfin bon, j'ai eu droit à tout. Au bout de 8 mois, un soir, au domaine numérique, Frêche me nomme adjoint délégué à la paillade et adjoint délégué au sport. Le management de Frêche est différent qu'un de Mandroux, mais ce n'est pas la peine qu'on compare. Moi, je suis venu faire la politique pour être efficace. Georges Frêche, management particulier, moi je l'assume, ce mec est brillant, ce mec est intelligent, ce mec a toujours un coup d'avance. Il peut être aussi à côté de ça...
Et les grosses colères de Frêche.
Mais oui, mais c'est des grosses colères, c'est un affectif, comme Hélène Mandroux, mais différemment. Georges Frêche est une éponge à câlins, c'est un gros affectif. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, je suis en train de me détacher de l'affectif, sinon je ne serais pas efficace dans ma délégation. C'est dur, la politique. Maintenant, si on n'est pas content, on se tire. Il y a eu 3000 demandes la dernière fois. Tout le monde veut être élu, et tant mieux. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui se présente pour être élu, parce qu'il n'y a pas assez de diversité, il n'y a pas assez de chefs d'entreprise, il n'y a pas assez de journalistes, il n'y a pas assez de flics, il n'y a pas assez de citoyens qui se présentent.
Mais il suffirait de donner le pouvoir aux citoyens.
Mais ils n'ont qu'à venir se présenter comme moi j'ai fait en 2000.
Mais pourquoi vouloir se présenter et avoir le pouvoir sur les autres?
Si tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux pas gouverner à un moment donné non plus.
Mais les citoyens...
Et sur 61 candidats élus, tu peux pas avoir 600.
Non, les citoyens ne veulent pas forcément avoir le pouvoir sur les autres.
Mais ils veulent quoi alors?
Avoir juste le pouvoir sur... pour la cité.
Mais ce qu'ils ont, on est en train de
et
mettre en place.
Les autres.
Mais alors, donc, la gouvernance de Georges Frêche est différente
de
Mandroux.
Quand je suis piéton, d'emmerder le motard. Quand je suis motard, d'emmerder le piéton.
J'ai fait sauter son PV, comme ça on sera tranquille.
J'en ai pas eu.
Non, mais je reviens.
J'en ai pas
eu. Ah,
pas
bon,
eu,
tu me le dis la prochaine fois.
Non.
Ah, c'est indirect à l'antenne.
Tu devrais pas la dire, ça.
Bah, je plaisante parce que ça, en plus, ça va revenir aux oreilles.
C'est noté.
Donc, si vous... ouais, mais moi, j'aime bien un peu l'humour parce qu'en fait, dans ce monde de brut, dans ce monde de difficile, si t'as pas un peu d'humour, si t'as pas un peu de sagesse et de retour, tu exploses. Et après, tu deviens parano, t'as l'impression que tu es envoyé à mission divine et que tu es le seul pour régler les problèmes.
Et là, ça c'est pouf.
Non. Donc, je reviens.
À 0% réel pour les auditeurs.
Non, alors écoutez, je voudrais vous le dire, moi, c'était dans un excellent journal qui s'appelle L'Héros du jour. Comme ça, je vais régler
excellent
mes comptes.
Journal,
voilà.
Ouais.
Moi, je n'ai aucune rivalité avec Philippe Sorel. Philippe Sorel est quelqu'un qui va être réélu, j'espère, pour la troisième fois conseiller général. Moi, je suis élu, ça fait qu'une fois. Donc, Philippe Sorel est un travailleur, un bosseur. Donc, on est en train aujourd'hui, certains médias, de me mettre en concurrence. Je ne sais pas, en concurrence avec Philippe Sorel. Aujourd'hui, on a besoin d'être efficace. Aujourd'hui, les gens, ils viennent de voter pour des régionales. Il y a 2 ans pour des municipales, demain pour des cantonales, après-demain pour des législatives, bien. Il y a la marre des élections.
Pourquoi
occupons-nous des gens.
Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu débattre avec toi?
Mais moi, je ne sais pas, on avait dit qu'il y avait un débat avec Rouméga, Sorel, Vignal pour voir en garde de la ville. Je ne sais pas, est-ce que vous n'avez pas été bon pour l'inviter? Est-ce qu'il a pensé que vous l'ameniez dans un guet-apens? Je ne sais pas, moi en tout cas, j'ai envie.
Non, il a refusé. Quand on a dit Vignal, il a dit hop, terminé. Non.
Ah, mais peut-être que je ne suis pas de son niveau, je ne sais pas. Enfin bon, de toute façon, on débat tous les lundis soirs au bureau municipal sur. Effectivement, je crois que la réflexion qu'on doit se poser. Et moi, je voudrais assumer des choses. Puisque vous parlez de politique à différence entre Fraîche et Mandrou, moi je me suis toujours positionné pour les régionales, d'ailleurs Georges Fraîche. Je vais le dire très tranquillement, ça sera bien répété. Moi j'aime ce mec parce que justement depuis que je fais la politique, je me rends compte que ça peut être un sale gosse, ça peut être un caractériel, mais ce mec est efficace. Et je crois qu'il a montré qu'à un moment donné, il fallait peut-être des fois avoir raison avant les autres. C'est un passionné. Il n'a pas une seule casserole au cul, je vous signale quand même. Parce que ça fait partie de ces grands hommes. De Fer, Mauroy.
De Fer, il en avait des casseroles.
Ils nous manqueront. Je le dis, mais je n'ai pas de souci de le dire. Ce mec nous manquera parce qu'il est arrivé. Il a su draguer les meilleurs fonctionnaires. Il a su s'entourer d'équipes. Alors avec ses colères, mais il a une vision extraordinaire. Je pense que Georges Fraîche doit être toujours pour nous, avec des Dugrand, avec des Vésiné qui a fait un travail, avec des Bénézis. Moi, j'ai fait un mandat au sport, Bénézis a fait 3 mandats. Il a posé le socle, et moi, j'ai rajouté une pierre, une plus-value. Donc, ces experts, que ce soit un Fraîche, un Dugrand, doivent continuer à nous aider. Cela dit, le monde change. Il faut aussi assumer. Je vous donne un exemple. Fraîche a fait ses Maisons pour tous en 2019, c'était une révolution. C'est obsolète aujourd'hui. Nous voulons, avec Mandrou m'a confié ça, on va travailler autrement, on va travailler, vous le verrez dans quelques temps, je n'ai pas tout dévoilé, où on est maintenant prêt à ce que la ville soit une réflexion de territoire nouveau. On a 7 grands quartiers, depuis 1960 il y avait 80 000 habitants, aujourd'hui il y en a 255, demain il y en a 320, 17 ZAC. La gare Saint-Roch, le tramway, le centre d'art contemporain, la ville de Latte qui rejoint Montpellier. Aujourd'hui, on doit
discours,
être...
Ce discours, oui. Avec Fraîche nous a laissé un écrin, oui. Et donc on va enjoliver l'écrin ou oui. L'améliorer, etc. Oui. Ça fait quelques fois que je t'entends le dire dans différentes conférences de presse, etc. Je ne l'ai jamais entendu dans la bouche d'Hélène Mandrou. C'est une idée de Patrick Vignal ou de Hélène Mandrou? Alors, j'ai l'impression que c'est Patrick Vignal, ça.
Non.
Et moi, ce que je me demande, c'est entre Fraîche et Mandrou, qu'est-ce qui a véritablement changé? Moi, j'ai l'impression que Mandrou gère le passé de Fraîche. Fraîche a fait la ligne 1, 2, 3, et elle a fini la ligne 3, et puis éventuellement, elle va faire 4, 5.
Non, de toute façon, elle gère la totalité de la politique, quelle que soit...
Mais attendez, la politique, c'est la continuité. Ou alors, on change si on n'est pas d'accord avec...
Non, mais Fraîche, il avait laissé du boulot pour 20 ans. Mais en termes d'aménagement du territoire.
Alors, vous savez, dernièrement, on m'a dit, mais Vignal, il ne veut pas faire travailler les promoteurs, les chefs d'entreprise. Vignal, il ne parle que d'humain. C'est une question de positionnement. Moi, je dis que la ville, aujourd'hui, doit se revisiter sur elle-même. Et regardez, je monte à Paris rencontrer Claude Dillain, qui est le maire de Clichy. Les banlieues compliquées autour de Paris sur cette idée voilà, où ça chauffe. Bon. Pourquoi Montpellier ne bouge pas? Pourquoi? Parce que cette ville est solidaire. Parce que cette ville, on y a mis de l'intelligence. C'est-à-dire qu'avant un quartier, on y a mis de l'équipement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cet écrin-là.
Le « on », il a un « non », c'est Fraîche.
Mais j'ai pas de souci. Bien sûr, c'est Georges Fraîche, mais c'est pas que Fraîche. Fraîche était un chef d'orchestre extraordinaire.
Son équipe
Fraîche s'est entouré de gens autour de lui. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Parce qu'on va aller direct au but. Bon, je voudrais quand même le dire et remercier tous les gens de mon canton. Le canton de Patrick Vignal est le deuxième canton qui a voté à Montpellier pour Georges Fraîche au régional. Je dis merci aux citoyens qui ont de mon canton, le canton que je représente, d'avoir cette intelligence d'esprit. Le maire de Montpellier, c'est vrai, a été mal aiguillé, a pris une mauvaise décision en partant au régional.
Justement. Bon,
mais ça, c'est son problème. Elle a décidé à un moment donné...
Et c'est pas une gamine qui a 25 ans. Donc, on est en 2010, l'après-régional.
Ouais.
Quand on regarde le score de Hélène Mandrou au régional à Montpellier, elle avait, j'arrondis, 11% au premier tour. Tandis que Fraîche a fait 41%. Est-ce qu'elle est encore légitime autre part qu'à Solferino?
Écoutez...
Visiblement, Sorel avait l'air de penser que pas vraiment.
Bon, moi je vais vous dire, je suis dans une équipe municipale. J'ai été élu en 2008 sur ma tronche, dans le canton, et sur Hélène Mandrou. Quand je suis passé dans mon canton, les gens me disaient « Ah, c'est un petit de fraîche, hein, parce que c'est ce que disait, mais il est sur la liste d'Hélène Mandroux. Aujourd'hui, on s'est un peu perdu. Nous sommes les socialistes les plus cons du monde. »
T'as jamais été sur la liste d'Hélène Mandroux.
Mais si. Si je suis élu aujourd'hui adjoint au maire, c'est grâce à Hélène Mandroux.
Ah non.
Je suis désolé, c'était la tête de liste. Et les gens votent pour la tête de liste.
Pour nos auditeurs, la liste de Hélène Mandroux de 2008 a été concoctée de A à Z par Georges Fraîche.
Mais c'est pas vrai, ça. Faut arrêter de dire d'écouter Radio Bistrot. Chers électeurs, écoutez Divergence, qui est une super radio, n'écoutez pas les autres. Il y a eu un consensus avec le parti Robert Navarro. Je voudrais le dire aussi en ce moment. On est vilain avec Robert Navarro. Ce mec, ça fait depuis 90 qu'il a monté cette fédération. Il y a des injustices en ce moment, je trouve.
Mais est-ce que ce n'est pas déjà une injustice ou une erreur, de moi, si ce n'est pas une injustice, de comparer une élection municipale avec les régionales telles que se sont passées?
Déjà, oui.
Donc, déjà, tirer des enseignements sur un score municipal et sur un score... Je veux bien admettre que le score d'Hélène Mandroux au municipal était un score dans lequel Georges Fraîche a compté énormément. Ça, c'est une évidence.
Ce mec est fabuleux. Voilà. C'est un animal politique. Il y a eu une élection.
De l'autre côté, de la même façon, je trouve que c'est un petit peu aller vite que de considérer qu'Hélène Mandroux est désavouée dans Montpellier parce qu'effectivement, elle s'est confrontée au régional dans un contexte bien particulier face à Georges Fraîche.
Et elle a fait...
Je trouve ça...
Camarade, je retrouve en toi une vraie sagesse. Le renard a une vraie sagesse.
Mais le renard est toujours sage. Contrairement au loup.
Oui. Ah mais monsieur le loup, tu es un vilain.
Ah, il profite que j'ai pas de voix, là, il m'énerve.
Monsieur le loup, sache une chose.
Hélène Mandroux, en 2008, elle a fait 38% du corps électoral au deuxième tour.
Oui.
Donc, c'est-à-dire qu'elle a fait un tiers des électeurs. Elle n'a jamais été majoritaire. Parce que ça n'est jamais arrivé à Georges Fraîche.
Attendez. Moi, je ne suis pas d'accord. Les journalistes, vous êtes en train de faire des comparaisons. Ce n'est pas comme ça que ça marche. D'abord, déjà, au régional, effectivement, c'est la force de Georges Fraîche. Je voudrais le dire, il en a pris plein la gueule quand même. Parce que c'est un peu dégueulasse, la politique. Hein. Et notre parti était en dessous de tout. Mais c'est réglé, c'est la vie, ça. C'est l'avantage du politique. On doit penser à l'avenir.
Ah bah c'est réglé, non.
C'est réglé. Aujourd'hui, on a des Montpellierains à s'occuper. Aujourd'hui, Hélène Mandroux, c'est vrai. Je le dis très franchement, je le dis sur Midi Libre. Ça a été dur. Je pense que pour elle, le lendemain des régionales, ça a dû être compliqué pour elle. Je suis d'accord.
Un mot sur la commission de conciliation nommée par Solferino.
Ouais.
Parce que quand on voit une commission de conciliation, ça, c'est le discours de Aubry. Et quand on voit que le chef de la commission de conciliation sur Montpellier, enfin sur la région, s'appelle Paul Aliès, ça relève plus de Robespierre.
Je n'ai pas l'habitude
de couper des têtes et du congrès de Valence de 80 que l'autre chose.
Je n'ai pas l'habitude, sachez-le, de parler mal de ma famille. Mes parents m'ont appris une certaine valeur. C'est que quand tu as des choses à dire, tu les dis là où il faut les dire, au groupe municipal de la mairie ou au groupe PS de la fédération départementale. Mais je vais faire une entaille à ce que m'ont appris comme valeur mes parents.
C'est ce qu'on avait promis, aux auditeurs.
Oui.
On ne ferait plus du off et du on.
Oui.
Tout serait en on.
Oui, mais quand je dis on, je vous parle de Paul Aliès. Il y en a marre de ces gens. C'est bien d'avoir fait Sciences Po, c'est bien de faire la fac.
Il n'a jamais fait Sciences Po.
Enfin, de devenir un grand expert. Mais il faudrait que des fois, il vienne se brûler sur le terrain. Et d'après ce qu'on me dit, mais je ne connais pas trop ce monsieur, il n'a pas eu souvent affaire aux forges d'université, où chaque fois qu'il a eu contact avec eux, il a pris une branlée. Donc ça veut dire que...
Notamment à Pézelas, où il a fait 8%. Oui.
Bah, donc à un moment donné, je suis désolé, c'est là la force de la démocratie du peuple.
Qui était la ville
Vous
de
savez,
père.
Des fois, je l'avoue, j'ouvrais des fois ma gueule au bureau municipal. Et puis un jour, il y en a un qui m'a dit « Mais mon petit, quand tu seras élu sur ton nom, tu pourras te permettre d'aller un peu plus loin. » Aujourd'hui, le fait d'être élu sur son nom, de faire une campagne, préparer un meeting, avoir du stress, taper dans la cage d'escalier et convaincre les gens, ça donne une certaine légitimité.
Mais ça revient peut-être, c'est une question, hein, c'est qu'une question, mais ça revient peut-être au début du débat, à savoir si il n'y a pas un certain nombre d'hommes de pouvoir qui prétendent avoir la science infuse.
Oui. Mais je reviens aussi à l'idée que le pouvoir, tu ne l'as pas. Le pouvoir se partage. Et le pouvoir te tient. Parce que si tu reviens à la base, ces élections-là, moi je veux bien que vous soyez tous les journalistes en train de mettre une comparaison entre Fraîche et Mandrou. Ils sont différents dans le style, dans la prod, dans le management, c'est comme ça. On sort, et je vous l'ai déjà dit, nous sommes en ce moment les socialistes et les plus cons du monde. Bon, on sort d'une lutte fratricide, c'est très dur, on va reconstruire.
Je voudrais quand même corriger.
Parce que si on ne reconstruit pas,
dans ce que
tant pis pour nous.
Mais dans ce que tu dis aussi, quand même. Je pense qu'au dernier municipal, l'équipe municipale actuelle avec Mandrou en tête, je mets l'équipe municipale dans sa globalité, et y compris avec la sentiment de Fraîche, on fit une campagne électorale où justement, qui corrigeait à la limite ce que le citoyen pouvait trouver de détestable dans la gestion du prédécesseur.
Mais bien sûr.
Donc à partir de ce moment-là, y compris Hélène Mandrou, à englober, je pense, enfin, c'est à toi de me le dire, je pense à englober dans sa gestion d'aujourd'hui des travers qui existaient dans la gestion de Georges Fraîche par le passé.
Mais ce n'est pas des travers, c'est un comportement faire différent.
Ou du moins un ressenti. Ben,
Georges
Fraîche. Ou d'aller sur un ressenti.
Un ressenti.
Voilà.
Georges Fraîche, 2 mètres, une carrure de rugbyman, puisqu'il a fait du rugby à haut niveau, je vous le précise. Donc la carrure, l'orateur, enfin, moi je l'ai vu, j'avais été vachement impressionné, il y avait 4 ou 5 ministres de la Santé qui étaient venus, il a pris sans papier la parole, c'est un historien, c'est un mec qui a fait HEC, donc il connaît le marketing, la communication, c'est comme ça.
Bon. En tant qu'historien, il ferait bien avoir de temps en temps des papiers. Parce qu'ils se plantent régulièrement.
Mais comme tous, quand tu es en live. Bon. Et derrière lui, je l'ai donc assumé, Hélène Mandrou était la personne qu'il fallait au Montpellier hein, pour avoir un temps de pause. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, stratégiquement, on est très bien. Un Georges Fraîche qui a bâti, qui continue. Et on a besoin de lui à l'agglo, à la région, pour continuer maintenant à déplacer ce qu'il a fait sur la ville, sur cette agglomération, pour que la ville puisse être maillée au sein de l'agglomération. 21% logement social, on sera à 30. Mais est-ce qu'on est obligé de construire sur tout le territoire de la ville? Ou est-ce qu'on va avoir cette réflexion? Montpellier se rapproche de Latte, la Paillade et Grabel, la Vérune et la partie de Montpellier, la Chamberthe. Je crois qu'aujourd'hui, on a un formidable écrin qui va nous permettre d'expertiser la ville, de décloisonner les politiques publiques et qu'on pourra exporter avec l'agglo. Nous sommes aujourd'hui, en matière d'économie, d'emploi, de transport, sur une communauté urbaine. Les gens, Montpellier, doivent penser lunel à 7.
Ça, c'est le nouveau mot quand même que tu utilises et qu'on n'a pas entendu Mandrou l'utiliser, mais l'écrin. Ça, c'est le nouveau.
Parce que c'est un vrai écrin, cette ville. Alors, bien sûr qu'il reste encore des choses. Il faut encore nettoyer. Il faut encore faire des parcs à vélo pour faire plaisir à mon ami Yves. Mais cette ville,
surtout pas.
Elle est prête à inventer un nouveau monde. Voilà. Bon, et je crois qu'Hélène Mandrou, ça a été son programme. Et je le redis, comme ça, on n'en parlera plus. C'est vrai que pour elle, ça a été un choix. C'est son problème. Effectivement, tu l'as dit, elle est adulte, elle est grande. Bon, ben aujourd'hui, c'est vrai que ça a laissé des traces. Mais je crois que d'ici la rentrée, les traces doivent se lisser. Et c'est notre mère.
Hein. Hélène Mandrou fait un boulot ménager tout à fait exceptionnel.
Mais pourquoi ménager? Pourquoi? Parce qu'on ne construit pas.
Les tags, effectivement.
Mais ce n'est pas ménager, Yves. C'est la proximité. Quelle est la demande du citoyen montpellierain?
Attends, il y a une chose. Tu ne peux pas. Dans un sens, réclamer le pouvoir du peuple, et dans la mesure où il y a un pouvoir qui se rapproche du peuple ou du satisfait du peuple, le considérer comme quelque chose de mineur.
Ah, mais ça, c'est le vieux comme.
Ah oui.
Ça, c'est
le... Non,
c'est le même qui veut de la proximité. Son conseiller général, il le voit chez lui, et il te dit ah, mais toi, c'est pas comme faire du ménage.
C'est une contradiction, ça, mon gars.
Ça, c'est le vieux communiste français qui croit.
Mais là, c'est le communiste tranquille.
Qui croit.
Et mon papa et ma maman étaient communistes. Ils sont plus là aujourd'hui, mais je peux vous dire que vous êtes des chiens.
C'est le pouvoir au nom d'un citoyen.
Non. Moi, je considère que c'est aussi important, justement, que les gens puissent être entendus dans un quartier, qu'ils puissent circuler dans une ville propre, qu'ils puissent bénéficier de manifestations culturelles, etc.
Pour ça,
ce qu'on peut appeler le quotidien, la vie au quotidien.
Pour ça, il y a une administration.
Que d'avoir, quelque part, des grands projets, Odysseum, ou tout ce que tu voudras.
Pour ça, il y a une administration. Mais
cher ami, quelles sont les missions d'une ville? Et pourquoi les électeurs votent pour la ville? Moi, j'aurais tendance à dire la proximité.
Parce qu'il n'a pas le choix.
Non, la proximité. Quelle est la mission de la ville? La proximité. Quelle est la mission de l'agglomération urbaine? Ça sera. Mais ce qui est normal, les compétences du sport de haut niveau, de la culture, du transport, du déplacement.
Je te pose une question. Qu'est-ce que c'est qui est le plus important pour les citoyens français aujourd'hui? Que le gouvernement fasse, construise un deuxième sous-marin nucléaire au nom du prestige de la France, ou au contraire, qui règle le problème des retraites?
Eh bien voilà, mais tu m'écoutes, je ne vais pas te répondre. Ben, oh, je vais vous dire, la gauche va gagner les élections nationales en 2012. Quelle priorité? L'éducation?
Ça, ce sera un scoop, ça.
La santé? Mais tu vois, on va gagner. Ah, on va gagner parce que, c'est pas qu'on est les meilleurs, parce que c'est tellement compliqué.
Pas pour cette raison-là. Ouais. Parce que vous allez nous promettre le bonheur.
Ah, ça, et je vais l'utiliser ce mot. Après les craintes, c'est une vie de décraintes et de bonheur. Le wellness, des Américains.
C'est pas de moi, c'est Aubry, hein, c'est Aubry hier. Alors, en l'occurrence, justement, quelle est l'ambiance aujourd'hui à la mairie, avec le cabinet et puis tout ça?
Allez, va, je vais être un beau coup cul. On s'aime tous, tout va bien. Même, cher ami journaliste, c'est pas à vous que je vais le dire. C'est très dur, la politique. La politique, c'est compliqué. Mais ça a été aussi la force de Fraîche de dire des choses. Il m'a toujours dit, tu seras jamais riche, tu n'auras pas d'amis en politique.
Assaf, il a libanisé la mairie, non?
Il n'a pas libanisé la mairie. Assaf est arrivé. Certainement que Christian Assaf avait des choses à régler avec Georges Fraîche. Il y a eu un combat. Maintenant, c'est fini. Maintenant, on va travailler, c'est tout.
Tu crois que c'est fini?
Mais ça sera obligé d'être fini. De toute façon, je vais vous dire, ce n'est pas le problème de vos auditeurs et des Montpellierains. Si on est mauvais en 2014, on dégagera. Et tant pis pour nous. Parce que moi, ce n'est pas mon métier, la politique. Je fais ça parce que ça m'intéresse et parce que je trouve que ce rapport humain est extraordinaire. Et si on est con au point à ne pas être capable de, une fois qu'on s'est chamaillé, une fois qu'on s'est disputé, à se rabibocher, tant pis pour nous. Donc, ce n'est pas le problème de Christian Assad et d'Hélène Mandeau de Georges Fraîche. Il y a eu quand même dans cette ville, pendant 30 ans, un projet, un suivi, avec un curseur où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Il y a encore des projets pour les 40 ans à venir. Si on est con en 2014, on ne les mènera pas, c'est tout. Voilà. Donc, sachez-le, et dernier point pour qu'on en sorte, moi, aujourd'hui, je me fais plaisir dans ma délégation. J'ai passé des moments difficiles parce que je trouvais que se battre entre frères, entre frères, entre partis socialistes, t'y es dedans, t'es dehors.
Entre frères, on dit plus camarades.
Entre camarades, c'est une fraternité de partis socialistes. Ah bon, enfin, ça l'était du moins.
Il y a des frères, bon. Camarades, il y a voilà. Des camarades.
Là, aujourd'hui, quand je propose.
Il y a des frères plus ou moins francs.
Quand je propose à Mme le maire de fabriquer de l'humanité, il faudra aussi qu'on la fabrique au niveau du parti socialiste. Bon, encore une fois. Moi, effectivement, si on part au niveau national, moi, ça m'aurait bien plu que Martine Aubry dise « Je vais réintégrer les 58. Bon, vous êtes disputés. » Parce que pourquoi elle a tort, Martine Aubry? Elle ne peut pas nous dire le lundi, 15 jours avant, « Eh bien oui, je voterai Fraîche. J'ai pas envie, mais c'est le meilleur. » Et pour une phrase anodine ressortie d'un contexte, nous dire maintenant « Fraîche est un banni. » Bon, ça a permis de faire du buzz. C'était la force de Georges Fraîche. Pas faire campagne, il n'est pas besoin. Il s'est retrouvé dans une starisation du politique. OK? Bon, à mon petit niveau, moi, un petit article sur le journal. La première en tête, c'est Vignal se met en selle pour 2014. C'était la même pour Philippe il y a quelques temps avant. Et là, tous les jours, des médias me disent « Alors, monsieur Vignal, vous êtes candidat. »
Ah bah attends. Bon.
Et je permets de le dire parce que ce matin, j'ai vu sur un média, je m'étais fait piéger par des journalistes. Pas du tout. Le journaliste qui m'a fait l'article de mi s'appelle Gilles Orfèvre. Tout ce qu'il y a dedans a été traduit intelligemment et très bien. Je le remercie. Par contre, j'ai appris, parce que j'apprends, que la première page, ça reste toujours l'intuition du journaliste. Donc moi, je n'ai pas été piégé. Je voudrais dire aux journalistes, vous écrivez ce que vous voulez. Dans la mesure où, après, ça ne devient pas une attaque personnelle de vie privée. Mais je veux dire, cet article, pour moi, était intéressant. Après, arrêtons d'opposer Fraîche, Mandroux, Vignal, Sorel. Il n'y a qu'une chose qui est importante.
Ouais, quand même.
C'est quelle efficacité?
Attends, les tacles que Vézinet a fait vis-à-vis de Sorel... lors de la dernière réunion du Conseil Général, et où toi t'es sorti pour téléphoner pendant 45 minutes.
Eh bien alors, je vais le dire aux auditeurs, et ça fera plaisir aux renards. À même temps que qu'André Vézinet taclait Philippe Sorel, d'abord, je vais le dire, tout compte fait, c'était pas terrible. Parce qu'en fait, s'il veut le tacler, il a qu'à tacler Philippe en groupe socialiste. Mais c'est vrai que Philippe n'y va pas. Philippe n'y est jamais allé. Donc, si Philippe était venu au groupe, je crois que Vézinet lui redit ce qu'il avait à lui dire. C'est-à-dire qu'on doit être présent à nos groupes. Et je suis sorti parce que l'excellent journaliste de l'Hérault du jour, ça fait trois fois qu'il m'a appelé, il voulait à tout prix une réaction sur l'article. Donc, j'ai passé 45 minutes avec Rémi Kouniank dans l'antichambre du Conseil Général. Voilà.
Alors, maintenant, on va parler du futur. du futur déjà l'année prochaine. Tu n'es pas candidat pour le Conseil général puisque
oui, parce que c'est en 2014.
Puisque ça n'est pas l'heure. Tu vas soutenir Sorel.
Mais bien sûr.
Le soutenir activement, physiquement, présentement, tracter avec lui. Alors, aller dans les cages d'escalier avec lui.
Mais moi, j'ai déjà dit.
Si, il va le soutenir dans les quartiers.
Mais attendez, vous savez.
La démocratie de quartier.
Non, mais vous savez ce qui se passe, en fait. En fait, il faudrait qu'on arrête tous d'avoir, de regarder nos nombrils. Bon. D'abord, en 2011, il y a des élections cantonales. Bon, il y a Philippe qui se représente, il y a André Vézinet à la Paillade, il y a Christian Bouillet. Je voudrais quand même remercier, je l'ai dit lundi, ce mec est bon, Bouillet. Bouillet, c'est un râleur, c'est quelqu'un qui peut être des fois même, brut de décoffrage.
Il y a même Midi Libre qui m'a demandé si on ne pouvait pas inviter Bouillet. J'ai dit, c'est bien la première fois que Midi Libre se mêle d'une émission de Divergence. Ils s'en foutent complètement.
Non, parce qu'il est. Christian Bouillet, il a un quartier difficile, un petit bar, pergola, paillade, un canton compliqué avec Figueroles. C'est un mec inoxydable. Et moi, j'avouerai, j'ai passé un an à me taper sur la tronche avec lui en 2001. Et ça nous a resserré des liens. Vous savez, je raconte une histoire. En pleine campagne cantonale, on refait un petit terrain avec une espèce de bitume. Il est pour 15 000 euros dans un quartier. Je ne tairai pas le nom, je tairai le nom aujourd'hui.
Alors,
et dans la nuit, si, parce qu'il y a prescription.
On ne fait pas du off.
Et dans
on
la
fait
nuit.
Du, dans l'art, c'est où?
Non, non, mais c'était dans un quartier de la ville. Et dans la nuit, les mecs balancent des quairons et une chaise en plastique.
De quel côté, ce quartier?
Dans son canton. Après, vous chercherez, chers amis. Et le lendemain, j'ai dit, Christian, moi, je ne le referai pas. Et il me dit, écoute, j'ai beau être en campagne. On a débarqué tous les deux. Il disait au mec, bon, écoutez, très bien. Vous n'avez pas respecté l'équipement, il n'y aura rien d'autre. Il n'y aurait jamais rien eu d'autre. Et je me suis dit, tiens, c'est un mec de qualité. Donc, Christian, aujourd'hui, qui était conseiller général, donc il descend de charge là, d'ici un mois. Je ne sais pas quel candidat il y aura derrière, mais il faut un candidat solide. Il faut un candidat qui résiste à la pression positive des quartiers. Parce qu'après, j'espère qu'on reparlera des quartiers où les gens sont vachement demandeurs et les gens sont déçus des élus. Mais il faudra aussi que dans les quartiers, les gens aient leur miroir aussi. Parce qu'à un moment donné, on est déçu des élus, certes, mais qu'est-ce qu'on fait aussi pour faire avancer les choses? Il faut arrêter d'être toujours en position de demandeur. Qu'est-ce qu'on peut apporter au débat de la démocratie? Donc Christian Bouillet, je pense que c'est un mec inoxydable. Et moi, je vous le dis, en tant que conseiller général, on perd quelqu'un sur un canton qui avait beaucoup de valeur, qui était bosseur, engagé,
et
disponible.
Et pourquoi il se représente pas?
Mais c'est normal, puisqu'il est parti sur la région, il est adjoint au maire, conseiller d'agglo, donc il cumule. Bon, et puis il ne pourra pas tout faire, donc c'est clair.
Et en 2012, la députation? Bon, okay. Philippe Sorel, on a bien cru comprendre qu'il était candidat. T'es pas candidat, toi?
Mais je suis député. Vous savez, je vais pas tacler. Moi, j'ai rien demandé. Georges Frêche m'a dit, je vous veux sur ma liste. En 2004, Georges Frêche m'a dit, il y a un poste de conseiller général, là où tu es né, dans ton quartier. Je veux que tu y ailles parce que tu as une bonne cote, ça marchera. Je suis dans ce canton et je crois que j'ai fait une campagne assez sympa et j'essaie de m'en occuper du peu que je mieux. Aujourd'hui, si demain, après-demain, pour une législative, les militants, le groupe socialiste de Montpellier, ma fédération et mon parti pensent que je peux être un mec qui peut apporter au débat public, qui peut être quelqu'un qui peut monter à Paris pour apporter la contradiction à cette société libérale qui casse tout, s'ils pensent que je peux être le meilleur élément, c'est avec plaisir que jour et nuit, parce que j'ai quand même cette qualité qu'on me reconnaît, j'irai bosser parce que j'adore bosser. Mais si demain, je ne suis pas le meilleur candidat, je n'aurai pas de frustration. Vous savez, j'ai compris il n'y a pas longtemps. Quand je vous dis que ça rend fou, si on n'a pas un peu de si on n'a pas un écran, on a vraiment l'impression qu'on est dans une mission et on pète les plombs. Alors, donc moi, j'ai beaucoup de recul. Je ne sais pas si c'est l'art martial qui m'a appris ça. Il n'y a pas de candidat providentiel. Il y a des gens qui ont envie de faire.
Alors, avant qu'on passe véritablement complètement justement à 2014, dans une hypothèse 2014 et même déjà aujourd'hui, 2010, les Verts sont-ils plus fréquentables que les communistes? Et qu'est-ce qu'on fait de ces résidus du MoDem?
Alors, la politique, c'est aussi de la stratégie. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a décidé, collégialement, parce que j'entends toujours ces fraîches qui a dit à Mandrou, prends pas les Verts. Mais je vous tiens, on est une équipe quand même sortante. Bon, les Verts, ça pèse 19% aux européennes, 12% régionales.
Ah, je croyais qu'il ne fallait pas confondre les élections.
Non, mais moi, je te parle, tu me parles des Verts, donc je parle de groupe.
Régionale, européenne, municipale.
19% européenne, 13 à 14% régional, ou 11... Non, ils ont fait 9 régionales sur toute la région, mais je crois que sur la ville, ils ont fait 14 ou 15. Moi, je pense que les Verts, on a bien travaillé avec eux de 2001 à 2006.
Donc, mon chiffre de 11% pour Mandrou régional, il était donc valable pour les municipales.
Non, je te parle des Verts. Mandrou, ah, c'est ouais. Différent. Mandrou, mais parce que Mandrou, il y a une lutte, lutte intestine entre Georges Frêche et le parti. C'est cela qui a encouragé. Il y a eu de l'injustice qui a permis aux gens de dire... Moi, j'ai des potes à moi, ils m'ont dit « On votera pour ton candidat parce que c'est injuste ce qu'on lui fait. » Notamment l'émission de Jean-Michel Apathy, où après, il y a eu cette guerre Parisienne-Provence. Donc c'est tout cela.
Je connais quantité de femmes de gauche socialistes qui ont voté Frêche. Parce qu'elles ont détesté la trahison de femmes de Mandrou vis-à-vis de Frêche.
Peut-être aussi. Bon, alors, revenons aux Verts. Bon, pour moi, les Verts, Jean-Louis Romégas et son équipe, Nicole Stamm aussi, avec qui moi j'ai bien travaillé d'ailleurs pendant le mandat, ils ont leur place dans une cité. Alors même si les Verts, ils ont plusieurs groupes. Hein, parce que vous me dites le MoDem et les Verts, il y a quand même aussi plusieurs groupes. Il y avait déjà deux groupes.
Est-ce qu'ils sont plus fréquentables que les communistes ?
Mais ce n'est pas fréquentable. Là, on parle de stratégie politique. À un moment donné, pour gagner.
Pourquoi il faut parler de stratégie hein ?
Mais parce que, en 2014...
Pourquoi il y en aurait un qui serait plus fréquentable que les autres
hein ? Yves me dit, il y a un résidu du MoDem, il y a les Verts.
Et pourquoi, effectivement, il faut les opposer ?
C'est pour ça. Mais c'est pour ça que vous ne m'avez pas laissé terminer. Stratégie politique, c'est quoi ? Pour gagner. Ou on est fort avec son groupe, c'est-à-dire le Parti Socialiste, et on dit à un moment donné, nous, on est fort, on rayonne, on a un projet, on a un bon bilan et on part. Ou alors on a de la stratégie. Aujourd'hui, j'estime, moi, que le plus important, c'est avec quel groupe on peut s'associer pour garder le bilan et continuer.
C'est parce que tu appelles depuis une dizaine d'années l'impérialisme du PS ?
Oui.
L'impérialisme du PS, c'est qu'en fin de compte... Ce que j'appelle l'impérialisme du PS, c'est qu'en fin de compte...
La mainmise totalement du parti...
Des diverses composantes qui ne servent que, je dirais, entre guillemets, que d'appoint.
Oui.
Et sur lequel, effectivement, il n'y a aucun dialogue, il y a une opinion, puis les autres, ils viennent ou ils ne viennent pas.
Comme c'est différent pour une ville,
ça, c'est
quand
autre chose, ça. Maintenant, après, effectivement, pourquoi ne pas concevoir, non pas des alliances, mais un rassemblement, parce qu'il y a une différence entre alliances... Et rassemblement.
Alors, justement,
ça, ça c'est intéressant.
Et lorsqu'il y a rassemblement, effectivement, dans un rassemblement, on voit pourquoi il y aurait une différence entre, ou des choses opposables, entre un courant ou un autre courant.
Il y a déjà le courant au PS, déjà.
Il y a
des alliances. Voilà. Bon.
Non, les alliances, c'est quand, en fin de compte, il y a quelque chose. Il y a des gens qui s'allient sur quelque chose qui est censé être
qui les rassemble.
Quand j'entends Aubry, par exemple, à l'issue des dernières élections, qui dit « Bon, mais le PS fait 30%, on est la première force socialiste, la première force d'opposition du pays. Bon, maintenant, il faut que chacun vienne vers nous. » Ça, j'appelle ça, elle sollicite des alliances. Maintenant, s'il y avait un discours légèrement différent en disant « Bon, voilà, il y a des mécontentements dans un pays, on a la responsabilité, parce qu'on est la première force d'opposition, on a le devoir de favoriser un rassemblement. Alors, ça, ce n'est pas tout à fait le même discours. Alors, il y a quand même une nuance.
Bon, on est bien d'accord quand même. Il y a une différence sur un plan national que sur un plan local. Il y a beaucoup de villes en France qui ont gouverné avec le MoDem, les Verts, les communistes, le PRG.
Ce qui vaut sur un plan national peut valoir sur un plan national. C'est peut-être
sur un plan local.
Sur un plan local, oui, pardon.
Non, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous me parlez de la question des Verts. Bon, d'abord, 2014, ce n'est pas demain. La priorité, on a dit, c'est de reconstruire notre équipe, essayer de pouvoir évacuer les distorsions, les dysfonctionnements qu'on a eus pendant quelques temps. Et ça, on se doit de le faire pour les Montpelliérains. Bon. Donc, ça veut dire que ça va se mettre en œuvre, j'en suis convaincu. Après 2014, il y aura un projet, un programme à la fois.
Justement, on va y arriver. Ça va être la troisième partie au niveau du débat.
Alors.
Et donc, justement, avant qu'on passe justement à cette troisième partie, c'est-à-dire 2014, les projets et puis tout ça, on va faire une petite pause musicale. Un petit morceau d'un vieux bluesman, un vieux jazzman, qui pourtant est un acteur de cinéma, Guy Marchand. Ah. Et avec un petit morceau, on va la quitter presque dédiée. La femme de sa vie.
« voilà tout seul sur les boulevards. La cravate blanche, la banane laquée, toujours bien noire. Arrogant comme un Anglais et con comme un ténor. Heureux. On marche sur tous les cœurs en chaussures bicolores, comme si on cassait des œufs comme un toréador. Jeune et fort, on se pavane, on fait pas d'efforts pour être aimable. Mais quand paraît la femme, celle de sa vie, on arrête son char, on reste interdit. On ne sait plus quoi dire, elle en tombe à genoux. Mais quand paraît la femme, celle de sa vie, on se découvre, on entre au paradis. On hurle l'amour du crépuscule jusqu'au petit jour. On devient fou entre chien et loup quand c'est à notre tour. Pour le moment, on balance les épaules en marchant. On entre dans toutes les boîtes avec l'air triomphant. On n'aime pas les animaux, ni les petits-enfants. On croit que le sourire, c'est une affaire de dentifrice. Que les baisers doivent avoir le goût de pain d'épices. Jeune et fort, on se pavane. On fait pas d'efforts pour être aimable. Mais quand paraît la femme, celle de sa vie, on arrête son char, on reste interdit. On ne sait plus quoi dire, elle en tombe à genoux. Mais quand paraît la femme, celle de sa vie, on se découvre, on entre au paradis. On hurle, hurle l'amour du crépuscule jusqu'au petit jour. On devient fou entre chien et loup quand c'est à notre tour.
Et maintenant, là, on est de retour là, dans les studios. Là,
excusez-moi,
de pour
Guy
la
Marchand, j'ai fait un footing, 2h15 de footing. J'étais à l'étranger et je l'ai rencontré.
Avec lui.
Est-ce que tu tiens 2h15?
Ouais, je m'en rappelle, c'était il y a très longtemps.
Ça doit être un personnage
en
sympathique.
En 87, en Thaïlande.
Il doit être sympathique.
J'avais fait, on est allé voir un match de boxe thaï. Et donc, on a discuté, j'étais français, on avait fait 2h15 de footing sur la plage, j'avais dit, je m'en rappellerai, c'est un c'est extraordinaire.
Et c'est un super saxophoniste.
C'est un grand sportif.
Et très bon saxophoniste.
Et le soir, vous avez fait un buzz, effectivement, sur un saxo.
Oui, c'est un jazzman ouais. Superbe et tout. Enfin bref, bon, ça c'était un espèce de petit clin d'œil, donc ce morceau de Guy Marchand, la femme de sa vie, on aurait pu l'appeler Hélène, mon amour, mais enfin, et on va passer donc à 2014. 2014, vu l'émission qu'on a eue lundi dernier avec Philippe Sorel, qui lui se réclamait comme étant vraiment l'homme de la nation, on a l'impression qu'en ce qui te concerne, on a plutôt affaire à l'homme du peuple. Et donc j'ai l'impression que le débat qu'il va y avoir au sein du PS, quant à la désignation du candidat, à la candidature, enfin tout le bazar, ça va être entre désigner l'homme du peuple ou désigner l'homme de la nation. Et donc là, il y a une différence aujourd'hui, en 2010, qui est quand même considérable entre vous deux. En ce qui te concerne, tu es un inconnu médiatique total sur le plan de Internet. Si on va sur Internet, on tape Philippe Sorel, on en a des pages et des pages et des blogs et des machins, il y en a tout ce qu'on veut. On a sa vie, son œuvre, passé, présente et future. En ce qui te concerne, rien. Pas même une biographie. Pas même un petit blog, on arrive à savoir au bout de trois quarts d'heure sur le net quand t'es né, on n'a même pas le jour. Où t'es né, on ne sait même pas exactement. Ça doit être un espèce d'homonyme, vous savez, un enculé de gardois. de quelle famille est-il? Quelles études a-t-il faites? Qui fréquente? On sait vaguement que tu serais maître de conférence, mais on ne sait même pas trop de quoi. Depuis quand t'es élu, on n'en sait fichre rien. Si, il semblerait faudrait que tu sois pour un premier mandat au cantonal, mais depuis quand tu es à l'équipe municipale, on n'en sait rien. Enfin bref, tu es un espèce de Iti de la vie politique locale, tandis que Philippe Sorel, lui, il est connu, et celui qui ne le connaît pas, il tape sur le net, il tape Philippe Sorel, et il en prend pour 15 jours de lecture. Alors, pourquoi ? C'est une volonté délibérée, c'est un oubli, c'est une incompétence, il t'a doublé, qu'est-ce qui se passe ?
Bon, d'abord, quand même, vous mettez le débat 2014 entre Philippe Sorel et Patrick Vignal, je vais le dire ça aussi.
Ah, c'est pas nous qui le mettons.
C'est pas...
Ah, c'est vous qui l'avez mis, l'un et l'autre.
Non, moi je ne l'ai pas mis.
On n'est pas allé vous chercher.
Non, mais je ne l'ai pas mis.
Le premier, c'est Sorel qui a fait...
Savez,
qui a
rappelez-vous fait le lièvre, la tortue, rappelez-vous le troisième homme.
Le premier,
il y a plein
Sorel,
de compétences.
Sorel, le 12 avril, ouais, qui fait un communiqué de presse, ouais, pour dire, voilà, je suis candidat. Et le lendemain ou le surlendemain, il y a Patrick Vignal qui dit, c'est quoi cette connerie ? Bon, bref.
Oh, non. Tu es vilain.
Non,
c'est pas le lendemain.
C'est le 26
avril. C'est-à-dire que
c'est
non.
C'est le 26 avril non. Où Patrick Vignal dit endosser le costume d'Aubert en 2014. Pourquoi pas ? Bon, donc entre le 12 et le 26 avril.
Je vous signale quand même l'histoire ne part pas de là. Ni de Philipson, ni de Georges. Ni de Patrick Vignal. Ça part de cet excellent animal politique qui s'appelle Georges Frêche, qui le soir des élections a dit.
Michael de la Fosse dans les pattes, là, ça sera nous.
Voilà, c'est pour ça que ça part de cet animal politique exceptionnel qu'est Georges Frêche, qui depuis quelque temps avait dit déjà, rappelez-vous en 2001, quand il a dit « je me présente à la région », il avait donné 6 noms. Je vais vous rafraîchir la mémoire, chers amis. Hélène Mandrou, Michel Guibal, Philippe Sorel, Anne-Yvonne Le Dain.
En 2004.
En 2004, ouais. Pardon, en 2004. Donc, Le Dain, Vignal, Sorel, Guibal, Mandrou et Morales. Bon, ça c'est le jeu politique, ça fait plaisir aux gens, les gens voient des gens, et ça permet à Frêche de sonder. C'est sa force aussi. Donc aujourd'hui, là, il a balancé quelques noms, même lui dit qu'il revient, il aurait raison, parce que si on n'est pas capable, peut-être que lui sera capable de garder cette ville. Donc moi, ce buzz médiatique ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Bon, qui je suis, moi ? Je suis une très très vieille famille montpelliéraine. Je crois qu'on est là depuis plusieurs siècles.
Gardois et Paris.
Non, je suis pas du tout gardois. Mais je vous donnerai, je vous ferai quelques surprises à la rentrée. Mais ça, je les garde pour moi. Je ferai. C'est pas un fait de faire un blog ou internet. C'est vrai que en fait, les gens ne me connaissent pas et ça me va bien. Mine de rien.
Tu n'as rien branlé avec ?
Non, mais c'est pas.
Branlé, excusez-moi. Ouais. Excusez-moi l'expression. Mais...
L'idée, c'est parce que quelque part, je suis assez volubile et j'ai un ego extraverti. Mais ma vie privée, c'est ma vie privée. Les réseaux à qui j'appartiens, ça ne m'aura que moi. Je suis très rarement avec ma femme, mes enfants sur des manifestations.
Et donc, tu n'as pas l'intention de faire ton coming out comme Philippe Sorel en ce qui concerne la franc-maçonnerie ?
Ça regarde que moi.
Donc voilà. Tu ne diras pas que tu es franc-maçon, quoi.
Je suis franc-maçon, mais ça regarde que moi. Voilà, c'est tout.
Ça, c'est le côté discret.
C'est pas un côté discret, c'est un côté, mais attendez, la politique, c'est pas que du people, là, c'est pas tous les jours de dire j'étais les réseaux. Moi, ce réseau est extraordinaire, c'est un endroit.
Parce que Philippe Sorel.
Mais c'est son problème, Philippe, il est grand, il est majeur.
C'est sans réclame, quoi.
Parce que c'est pas même pour une stratégie. Moi, aujourd'hui.
Tout mon petit clin d'œil quand je l'appelais le grand architecte.
Ouais. Non, mais après, si vous voulez, c'est différent. Philippe a fait son choix de sortir du bois. Bon, moi, je peux le comprendre. En 2004, il pensait être maire de la ville. En 2007, il n'avait pas pris de vacances pour les législatives. Je crois qu'il était même candidat au régional. Je comprends. Philippe, il a envie. Il a des choses à faire. Il a une belle délégation. C'est quelqu'un qui travaille. Il dit, à un moment donné, je me sens légitimé. Bon, pourquoi pas ? Moi, aujourd'hui, je vois pas...
Il n'y a que lui, visiblement, qui se sent légitimé.
C'est
tel que tu nous
non,
le
c'est
dis.
Pas vrai. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres.
Il y en a un qui dit, moi, je sors la moto. Et puis, il y en a un qui dit, moi, je suis prêt à monter sur la selle.
Ouais, mais même, il y en a même. Et puis après, il y en a qui disent, et carrément, je conduirai. Je sors la moto, je monte sur la selle. Si vous voulez, on arrête le débat sur deux candidats. Mais d'abord, est-ce qu'Hélène Mandrou ne sera pas encore candidate en 2014 ? Est-ce que ce ne sera pas encore la meilleure pour devenir liste ? Est-ce qu'un Georges Frêche se dira pas tout compte fait écoutez, moi, j'ai encore un peu de temps, je vais encore vous aider à garder cette ville à gauche ? Parce que l'important, à ce qu'on garde la ville à gauche, mais plus qu'à gauche, qu'on garde cette ville sociale, solidaire. Donc après, quel sera le meilleur candidat ? Moi, je m'en fous. Ce n'est pas mon souci aujourd'hui. Vous oubliez les femmes. Vous oubliez des gars comme qui y a encore dans l'équipe. Et puis vous oubliez peut-être quelqu'un qui était dans l'équipe ou quelqu'un qui est dans l'extérieur.
Voilà, et justement, Philippe Sorel nous a répondu, mais en ce qui te concerne, avant de te déclarer, parce que quand même, le 26 avril, t'as quand même dit qu'endosser le costume d'Homère, pourquoi pas.
Bon.
T'as consulté Fraîche ?
Non.
T'as consulté Mandrou ?
Non.
Vésiné ?
Non.
Donc tu t'es senti investi d'une mission comme...
Mais pas du tout, mais pas du tout, pas du tout. Attendez. Moi, je vais recentrer le débat. Et ce qui est dit est bien dit. Le journaliste me dit, vous avez...
Quand un homme de gauche recentre le débat, je crains tout.
Non, il me dit, vous avez un super projet. Il faut que vous soyez pas candidat à la mairie. Et je réponds, écoutez, aujourd'hui, il y a un maire en place. Il y a plein de compétences. L'équipe municipale, il y a des gens nouveaux qui sont dedans, qui émergent. Si demain j'étais le candidat qui pourrait rassembler avec un projet et que les militants, les Montpellierais, parce que vous savez comment ça marche, on fait quand même des sondages pour savoir si on va garder la ville, si ça va fonctionner, et le groupe socialiste, mais bien sûr, moi j'ai pas honte de le dire, être né à Montpellier.
Philippe Sorel justement disait à ce propos que entre lui et toi, lui avait toutes ses chances et toi aucune.
Je l'ai jamais entendu d'ailleurs ça.
À propos de sondage.
Je l'ai jamais entendu ça. Je crois que cher ami, que je l'ai jamais entendu de la part de mon ami Philippe. Je suis étonné qu'il puisse dire ça.
Il a dit ça lundi, quoi.
Ah.
Donc c'était très récent.
C'est très bien. C'est très bien. Si Philippe a ce capital fabuleux, j'ai récolté les affiches pour lui. C'est pas un problème. Ce qui est important, c'est l'efficacité.
Justement. Au niveau de l'efficacité, pourquoi ne pas vous allier entre vous? Parce qu'il est vrai que, a priori, Philippe Sorel a plein de compétences.
Complètement.
C'est indéniable. Que Patrick Vignal, il a plein de compétences aussi. Et puis qu'il y a certainement aussi plein d'autres gens au sein de la mairie ou en dehors de la mairie qui ont aussi sûrement plein de compétences. Pourquoi se tirer dans les pattes entre vous actuellement alors que je crois qu'il y aurait peut-être beaucoup mieux à faire? Est-ce que là, il n'y a pas tout simplement un problème?
C'est peut-être ce que pense Mandrou, hein, en se disant, moi, je suis bien, moi, j'ai les compétences de Sorel, j'ai les compétences de Vignal.
Vous savez, eh ben oui.
Ah, mais ouais.
J'aurais été méchant et plus humble en ce qui la concerne, en disant, j'ai les incompétences de l'un et les incompétences de l'autre.
Mais si vous voulez, plus sérieusement, encore une fois, c'est pas un problème d'opposition. Moi, aujourd'hui, j'ai une délégation qui s'appelle l'Action territoriale, la démocratie participative, et surtout je tiens à la présidente du contrat urbain. Quelle ville de demain? Est-ce qu'on ne peut pas inventer un nouveau modèle à Montpellier où on pourra arriver à faire de la gestion de l'espace public, du tramway, une ville apaisée, une ville tolérante, une ville ouverte où on va réfléchir? Regardez, on parle de sécurité aujourd'hui, mais qu'est-ce que nous propose Sarko? Police de percussion dans les transports, police de percussion, on met des flics dans les lycées, on met des flics dans les hôpitaux. Bon, moi je dis qu'aujourd'hui peut-être on doit avoir une réflexion d'une ville nouvelle.
Alors,
donc, après, ce n'est pas un problème dans 3 ans, 4 ans. Je vous le répète, il y a plein de compétences d'équipe municipale. Moi, je n'ai pas de coming out à faire. Moi, je suis là, j'ai une mission, comme confie Mandrou. Elle me laisse travailler.
Alors, le générique.
Et je veux travailler sur ça.
Le générique est parti. Patrick Vignal, rapidement, 3 bonnes raisons pour te soutenir d'ici 2014.
3 bonnes raisons pour me soutenir.
Ou 2, oui.
J'en vois pas pour l'instant.
Aucune.
Je suis en 2010 et je suis adjoint au maire de l'équipe en place. C'est tout.
Et pour te soutenir maintenant dans ton boulot.
Il faut laisser du temps au temps.
Maintenant dans mon boulot, que les Montpelliérains soient de plus en plus solidaires et que les Montpelliérains prennent le temps, de venir à nos réunions publiques pour pas qu'ils nous disent qu'il n'y a pas de démocratie. Et quand je vois qu'avec le contrat PLD qu'on met en œuvre, on a reçu 890 personnes.
Alors,
quand je vois que hier soir j'étais à la Croix d'Argent et qu'il y avait une centaine de personnes avec qui on échangeait sur la ville de demain, c'est un projet.
Et on rappelle,
et quand la cohésion sociale devient une ville.
On rappelle à nos auditeurs que nous sommes en plein dans le printemps de la démocratie, organisé donc par la ville de Montpellier, avec un programme disponible
sur le blog,
à la mairie, sur le site de la mairie. Et donc le printemps de la démocratie, c'est peut-être une première expérience de démocratie de proximité. On aura l'occasion d'en reparler, ça c'est certain. Il est même question que l'année prochaine, dans la session radiophonique, on fait plus qu'en parler.
On va se fructifier le projet.
On ne parle plus que de ça, carrément, sur Provoscopie. Quoi qu'il en soit, divergente et divergent, à la semaine prochaine. Et puisque nous en sommes à recevoir les candidats à la candidature, on vous en promet encore un autre pour la semaine prochaine. Et ça, vous verrez bien qui c'est. Bonne semaine à vous et faites pas les fous. Ciao.
Merci beaucoup.